L'interview
de Studio 45.
Eh bien bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et auditeurs de Studio 45. Aujourd'hui, nous recevons Jacques Cheminade à l'occasion de la parution de son livre « Répondre aux cris du peuple ». Dans cet ouvrage, il propose une réflexion à la fois personnelle et politique sur les relations entre citoyens, institutions et souveraineté, en revenant sur son parcours et ses engagements. Ce livre invite à s'interroger sur l'état du débat public, le rôle de l'État et la place des citoyens dans la société actuelle. Jacques Cheminade sera également présent en séance de dédicace le 28 février 2026, une occasion pour les lecteurs d'échanger directement avec lui autour de ces thèmes. Nous allons justement revenir avec lui sur les idées développées dans cet ouvrage. Bonjour Jacques Cheminade.
Oui, bonjour et merci de me recevoir et merci à tous de m'écouter.
Alors Jacques Cheminade, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire « Répondre aux cris du peuple » aujourd'hui ? Pourquoi ce livre maintenant ?
Bien maintenant, parce que je vois une situation internationale qui s'est terriblement dégradée. On est dans un monde où tout le monde réarme et personne ne fait d'enfants. Vous savez que le nombre d'enfants par femme à un âge de procréer, à l'exception de l'Afrique, est tout à fait en dessous de la moyenne de reproduction. Donc c'est ces deux choses-là qui me semblent très graves. Avec quelqu'un comme Mark Rutte, qui dirige l'OTAN, qui est secrétaire général de l'OTAN, qui dit qu'on reconnaîtra un temps de guerre comme nos grands-pères et nos arrière-grands-pères ont connu, et qui dit voilà, il y aura la guerre. Donc tout ça me choque terriblement. Ce qui s'est passé à Gaza me choque terriblement, ce qui se passe au sud de Kivu me choque terriblement, et face à cela, une classe politique française qui s'occupe de toute une série de choses plus ou moins importantes, mais qui ne vont pas à l'essentiel. Alors ce livre n'est pas quelque chose qui propose un programme, quelque chose qui propose un chemin, c'est quelque chose, une feuille de route, c'est quelque chose qui propose réfléchir à des sujets fondamentaux pour sortir de cette classe politique qui pense petit et pour laquelle la France ne tient pas son rang dans le monde et ce rang qu'elle devrait le tenir, c'est un rang de paix par le développement mutuel et par la sécurité mutuelle, et d'être référence pour cela. Or, elle ne tient pas ce rôle, et elle s'est laissée de l'intérieur, dévoyée par toute une sous-culture anglo-américaine des perceptions immédiates, de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas, dans l'immédiat, sans penser à long terme. Or, aujourd'hui, c'est dans un esprit de souveraineté nationale qu'on peut à nouveau penser à long terme, mais à condition de voir une France qui joue son rôle dans le monde. Et ce livre essaye de définir des éléments pour se mettre à penser de ce rôle que devrait jouer la France pour la justice, pour son propre peuple, et aussi pour une référence pour les autres peuples du monde.
Et quand vous parlez de cri du peuple, de quoi s'agit-il concrètement selon vous ?
Le cri du peuple, c'est une référence, c'est un clin d'œil au journal de Jules Vallès sous la Commune, qui s'appelait D'accord. Le cri du peuple. Et je pense qu'on n'y a jamais répondu. Les systèmes libéraux, le système communiste, tous les systèmes n'y ont pas répondu. Et c'est d'essayer de voir en quoi, dans notre tradition en France, on a les éléments pour y répondre. Et que, malheureusement, on les laisse tomber à un. Ces éléments pour y répondre, c'est une culture qui est une culture de la richesse, partagé, développé avec la science et l'éducation comme piliers fondamentaux. C'était la politique de Henri IV, par exemple, de Sully. Mm-hmm. On a écrit là-dessus, mais on ne s'en inspire pas. C'est la politique qu'a pu avoir le général de Gaulle dans une certaine mesure. C'est une politique que l'on retrouve aussi à certains moments de la Troisième République, à certains moments de la Quatrième République, mais qui n'est jamais portée par un projet long. Donc, on est dans le court terme ou le moyen terme, et pas dans une vision longue qui doit répondre aux défis d'aujourd'hui. Le défi d'aujourd'hui, pour moi, est double. Hein. Mm-hmm. Et c'est d'abord un système financier et monétaire international qui repose sur la dette et pas sur la vraie richesse physique, pas la vraie richesse humaine, et qui est en train aujourd'hui de vaciller sur ses bases. Hein. C'est une pyramide de Ponzi prête à s'écrouler. Et d'autre part, une politique par rapport à cela d'une oligarchie qui vise la guerre. Cette oligarchie, vous la trouvez aux États-Unis, à Silicon Valley, avec tous les nouveaux géants ou je dirais seigneur de la tech, de la technologie, qui pensent dominer le monde avec une technologie, mais qui n'ont pas de nouveaux principes physiques. Il n'y a pas une éducation aux États-Unis qui réponde à la capacité de créer. Donc on applique ce qui est pour essayer d'obtenir le remboursement d'une dette qui n'est pas remboursable, et c'est ça qui conduit à la guerre.
Votre livre décrit aussi une fracture entre citoyens et institutions. À quel moment cette rupture s'est installée, selon vous ?
C'est une idée qu'il faut voir sur le temps long. Ça s'est installé, en particulier en France, au moment où, avant, il y avait cette rivalité entre, en gros, les communistes et les gaullistes. Mais tous deux, avec des systèmes sociaux différents, étaient pour le développement économique, pour une politique industrielle, une politique de science, une politique de croissance. À partir d'un certain moment, il y a eu les notions anglo-américaines, une fausse écologie, une fausse adhésion à l'argent. C'est le monde de l'argent qui s'est imposé. Et il s'est imposé progressivement en France. Et en particulier, il s'est imposé à la fin du XXe siècle avec la banque-industrie, où le financier a dominé complètement l'industriel. Et on est dans un monde de la finance dont Emmanuel Macron est un exemple, puisqu'il a été entièrement formé dans la bureaucratie au plus haut niveau, à l'École nationale d'administration, et par la finance, par les différents métiers qu'il a exercés au Trésor, dans différentes institutions, à la Banque Rothschild, etc. Donc on a un homme qui a été plongé dans ce milieu-là, et quelles que soient ses compétences et ses connaissances, il a servi ce milieu-là, et il était quelque part instrumentalisé pour servir ce milieu-là. Et on le voit aujourd'hui, où on voit une France qui n'est plus respectée dans le monde, ni à Washington, ni à Moscou, ni même à Pékin, on ne respecte la France. Donc moi, je voudrais une France vraiment qui retrouve des raisons d'être respectée. Et on a les moyens. On a les moyens parce qu'on a une formation d'ingénieurs de très grande qualité. On était une société d'ingénieurs. On avait une planification indicative qui était quelque chose de très important pour fixer un destin, un but, un horizon à la France. Et on avait une culture qui était basée sur une culture de la vie, de la découverte, de l'exploration. On était une France qui se situe toujours par rapport au futur. Et c'est ça auquel il faut redonner sens, qu'il faut redécouvrir à travers une souveraineté que Coralie Delhomme, avant de mourir, avait expliqué comme la nécessaire souveraineté. En distinguant la souveraineté qui est vers l'avenir, qui est faire quelque chose pour le peuple dans l'avenir, répondre aux cris du peuple français et des peuples du monde pour l'avenir, et pas se réfugier dans une identité derrière une sorte de ligne Maginot qu'on prend toujours par derrière et dans laquelle on est toujours vaincu si on est trop défensif. Il faut une offensive de ce qui est une conception de l'homme dans laquelle on est convaincu que l'homme peut faire le bien, qu'il était capable de se développer, que la France a une population qui s'est développée, qui a trouvé les moyens pour se développer, qui a eu l'Académie des sciences, qui a eu toute cette tradition de Pierre et Marie Curie, cette tradition de tous ceux qui ont découvert, tous ceux qui ont été Jean Bertin, l'ingénieur Jean Bertin, des gens qui ont élaboré tout le monde des lasers, des gens qui ont découvert Internet. On a tout ça, et tout ça, ce monde du court terme, ce monde de la finance, est en train de le laisser mourir. Donc, il faut le faire renaître, et c'est ça le but de mon livre, en donnant des moyens de réflexion, pas des recettes établies, je crois que ce n'est pas le moment de donner des recettes, c'est le moment de faire penser, et faire penser à ce qu'est une nécessaire et difficile souveraineté, comme je le dis dans mon livre, et une souveraineté, disons, qui permet de rétablir dans la population une croyance en ses possibilités, en ce qu'elle peut trouver en elle-même de positif pour les autres. Et c'est ça, moi je pense à cette ville de Montargis où il y a à la fois toute l'histoire de la Chine et ceux qui ont créé le Parti communiste en Chine, où il y a en même temps une ville, c'est la petite Venise, une ville qui serait exemplaire, et tout à coup qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu tomber sur Montargis tout le désordre, la violence à un moment donné. Et je pense que là aussi, Montargis comme la France, de ce point de vue-là, doit se reprendre.
Est-ce que vous pensez que la défiance actuelle envers la politique soit réversible ?
Je crois que la France n'a pas de politique, en réalité. Elle suit ce qui est décidé à Wall Street, à la City de Londres, et par les politiques de fédérateur extérieur, comme disait le général de Gaulle. Elle n'a pas de politique propre. Il faut redonner le sens à cette politique propre. Or, en réalité, les souverainistes se battent entre eux, les gens de gauche se battent entre eux, les gens de droite et d'extrême droite se battent entre eux, et pire encore, les gens de droite et d'extrême droite sont en train de plonger à pieds joints dans les crypto-monnaies. Et autant M. Ciotti qui a proposé une loi Genius sur les crypto-monnaies, la même chose que propose l'entourage de Trump, autant Marion Maréchal Le Pen, autant Sarah Knafo, tous trempent dans ce milieu trumpiste qui est basé pour le pire dans la spéculation financière, qui est encore pire que Trump lui-même. C'est le milieu de banquiers milliardaires qui veulent devenir multimilliardaires et qui veulent pratiquer le transhumanisme pour essayer de demeurer sur Terre aussi longtemps possible. Des gens qui, quelque part, à force de richesse, ont perdu la raison.
Et quelle place doit prendre la souveraineté et la coopération internationale dans votre vision ?
Un grand défi pour la France, c'est l'Afrique. De rétablir en Afrique une politique qui soit une politique où nous avons beaucoup de choses à apprendre à l'Afrique et où l'Afrique a beaucoup de choses à apprendre à nous apprendre. Et rétablir ce développement, j'ai devant moi, là, dans le bureau où je suis, un buste d'Iffé, qui était la plus belle culture africaine, et repenser à cela en échappant à l'idée que l'Afrique est composée de gens qui ne se développeront pas, de gens qui ont été colonisés, de gens auxquels on pense faire des affaires, mais pas élever, pas créer ensemble quelque chose de meilleur. Et je pense qu'il faut retrouver en France une politique vis-à-vis de l'Afrique, et plus encore à l'échelle du monde, parce que nous sommes partisans à Solidarité et Progrès, qui est notre parti. Nous sommes partisans de nouvelles architectures de développement mutuel et de sécurité mutuelle, pas seulement en Europe, mais dans le monde. Et la France devrait être inspiratrice. De Gaulle l'avait fait lorsqu'il était au Canada, lorsqu'il a fait son discours de Phnom Penh, lorsqu'il a fait ses discours sur la reconnaissance de la Chine en janvier 1964. Il y avait toute une tradition en France d'éviter la guerre des blocs, d'éviter qu'il y ait deux blocs qui se combattent. On était avec les Américains et on l'avait soutenu au moment de la crise des missiles de Cuba, mais en même temps, on les avait violemment critiqués au moment de la guerre du Vietnam. Donc c'est là où la France doit retrouver une identité et pas quelque chose qui fluctue selon les circonstances, comme on l'a trop vu depuis plusieurs présidences.
Mais comment on peut redonner aux citoyens le sentiment d'être réellement écouté et être acteur ?
Alors c'est changer de manière de penser. Je pense que c'est très important ce que vient de dire le pape actuel, Léon XIV, qui vient de dire, voilà, jusqu'à maintenant, on a pensé en termes d'adversaires. Il faut un ennemi pour exister. C'était le juriste Carl Schmitt, qui était le juriste d'Hitler, qui pensait de cette façon. Et il n'y a pas que lui, hein. C'est une chose qui s'est répandue un peu partout. Donc, il faut penser autrement. Il faut penser qu'à un niveau où les choses apparaissent contraires, et si c'est contraire, ça ne peut pas être ensemble. C'est Aristote, c'est toute la pensée philosophique qui va dans ce sens. Bien, le pape dit qu'il y a une autre façon de penser, qui est la pensée d'un grand philosophe de la Renaissance, l'aube de la Renaissance, qui s'appelait Nicolas de Cuse. Il faut penser en termes de coopération, en termes de coïncidence des opposés. À un niveau, il y a des contraires, mais au niveau supérieur, il y a des opposés. Pour ça, il faut d'abord des opposés. Donc qu'on s'intéresse à la culture de l'autre, qu'on explore, qu'on voit ce que c'est, qu'on voit ce qu'était le confucianisme en Chine, la théorie au début du XXe siècle, en Russie par exemple, de l'école du cosmos, qu'on voit aussi qu'elle a été en Inde, tout l'apport de Rabindranath Tagore, de Nehru, de voir l'esprit du pacte de Bandung des non-alignés, de se nourrir de tout cela, pour être un peu moins opposé. Et puis à partir de cela, à l'intérêt de la culture de l'autre, on passe à un niveau supérieur et on définit, si on travaille ensemble, une façon par laquelle on peut avancer. Et pour moi, ce qui était terrible, moi qui dans ma jeunesse était pour Algérie, qui n'était ni française ni musulmane, mais une Algérie algérienne, de voir qu'entre la France et l'Algérie, on n'a pas réussi à faire cela, et c'est ce qu'il aurait fallu faire. Et là, si on avait fait, si on était allé vraiment dans cette direction, on aurait un rôle en Afrique très important, il n'y aurait probablement pas eu ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest, où on s'est laissé porter par des intérêts qui n'étaient pas nos véritables intérêts de la France, mais qui étaient des intérêts des spéculateurs des deux côtés. Et moi, je suis un grand admirateur de Thomas Sankara, par exemple, qui voulait rétablir cela et qui a été assassiné avec différentes complicité. C'est l'époque où François Mitterrand a dit « Ce jeune homme est bien aventureux ».
Et ce livre est aussi nourri de votre parcours. Qu'avez-vous appris de vos engagements passés ?
J'ai appris une chose, qu'il faut être d'abord en avant, qu'il ne faut pas penser dans les termes donnés. Ce que mon ami américain Lyndon Rarouche disait dès les années 70, c'est qu'à partir du découplage entre l'or et le dollar, le 15 août 1971, à partir de là, c'est le Far West financier, c'est-à-dire la dette s'accroît, on émet de la monnaie et de plus en plus de fausses monnaies. Le comble, c'est aujourd'hui avec les crypto-monnaies qui ne reposent sur rien. Et de l'autre côté, si on attaquait ça, à l'époque, on était de gauche ou extrême-gauche. Hein. Maintenant, de l'autre côté, c'est développer une fausse culture de la musique bruit, du sexe marchandise, du porno, de la drogue, de la tolérance et des drogues. Si on attaquait ça, on est de droite ou d'extrême droite. Or, les deux choses dans la société, comme nous en discutions à l'époque, ont marché du même pied. C'est-à-dire, vous avez en même temps les deux choses. Et on est dans un monde où, malheureusement, souvent, l'art est réduit à des sensations, à des effets, à des chocs, et la science est réduite à des techniques comme tous les gens de Silicon Valley. Il n'y a plus la recherche de nouveaux principes physiques, l'exploration de nouveaux principes physiques, et un art qui permet à l'être humain de développer ce qu'il a de meilleur. Nous avons organisé avec des amis un concert imparfait peut-être, mais avec la 9e symphonie de Beethoven, sur les instruments avant et les cuivres, nous n'avons pas les moyens pour un instrument à cordes, nous avons organisé cela dans trois concerts, et c'était pour redonner à des gens qui d'habitude ne viennent pas aux salles de concert, parce qu'ils sont intimidés, parce qu'ils pensent une musique de bourgeois, ou je ne sais trop quoi, des gens, on leur redonne ce qui est beau. La 9e symphonie est une des plus belles choses qui ait été écrite. Donc, il y avait beaucoup de monde, il y avait 400, 300, 800 personnes. Les gens veulent ça. Mais qu'est-ce qu'on leur donne ? On leur donne une culture dans laquelle il y a des jeux vidéo ultra violents, il y a des réseaux sociaux qui partent dans tous les sens, et dont les informations dites officielles, un narratif qui est tout à fait inspiré tout le temps depuis les endroits où il est élaboré, c'est-à-dire généralement, chez ce que De Gaulle appelait, je le souligne, le fédérateur extérieur, c'est-à-dire aux États-Unis. Alors ce n'est pas les États-Unis en tant que pays, c'est une classe politique qui aujourd'hui est financière, qui tient ce pays. Alors il est en train d'arriver à une chose exceptionnelle, c'est l'affaire Epstein. Et l'affaire Epstein révèle la corruption des milieux dirigeants. Et là, le peuple va réagir, je pense et j'espère, si on lui montre qu'on peut faire autre chose que d'aller dans le sens de cette corruption qui n'est pas seulement sexuelle, hein, qui est financière, qui est politique, qui touche à tout. Et je pense qu'en France, c'est illustré par ce personnage qui est Jack Lang. Je ne veux pas lui jeter la pierre, mais il est représentatif à travers notamment sa fille des spéculations financières. Il est un homme politique et il a été impliqué dans une amitié avec Epstein. Donc ça révèle beaucoup de choses. Et Jack Lang n'est pas le seul. Hein. Il y a probablement bien pire. Mais vous avez toute cette classe en place qui est transatlantique, qui s'est exposée. Et c'est le moment de dire il faut autre chose. C'est le moment de dire il faut répondre aux cris du peuple.
Et est-ce que la jeunesse peut-elle jouer un rôle à ce cri du peuple, selon vous ?
Bien entendu, c'est elle qui doit répondre. Et la jeunesse, actuellement, a perdu beaucoup de repères. Mais elle a une conviction, que si le monde futur n'est pas meilleur, elle n'a plus sa place. Donc, elle voudrait ce monde futur qui est meilleur. C'est pour ça que je cherche à lui donner ses repères, pour qu'elle voie et s'instruise par elle-même. Ce n'est pas pour leur imposer l'extérieur, c'est pour lui rouvrir des portes. Et je pense que l'idée de fraternité, sur ça, est particulièrement importante. Liberté, égalité, fraternité. Et déjà à l'époque, c'est lié à la culture, je pense, déjà à l'époque, au 19e siècle, des gens s'occupaient de faire des chorales, mais pas des chorales pour chanter n'importe quoi. Des chorales et un art dans lequel on peint juste, dans lequel on chante juste. Et il y a des gens comme quelqu'un qui s'appelle Wilhelm, qui est peu connu, mais un poète qui l'a célébré et plus connu, il s'appelait Béranger, qui nous dit, si on chante en chorale, chacun avec une voix, un registre différent, mais qu'on s'entend pour faire quelque chose de plus beau que c'était chacun par soi-même. Eh bien, il dit, on arriverait à tout un monde qui aujourd'hui est divisé. Eh bien, au contraire, les cœurs, dit le poète, sont bien prêts de s'entendre quand les voix ont fraternisé. Donc c'est ce nouveau sens du dialogue à travers la musique, mais à travers autre chose. Aujourd'hui, on est dans la conversation ou dans l'injure ou dans le silence. Et vous savez, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est de voir beaucoup de ces jeunes qui souvent rentrent dans le silence et le lien avec l'intelligence artificielle, ces cercles que l'on voit aujourd'hui à Paris pour leur parler, qui vous disent ce que vous êtes prêt à entendre et vous isolent. Et les jeux vidéo, tout ça isole. Il faut rétablir un sens social. Et j'étais avec un ami qui me disait, on dit beaucoup de choses sur la Chine, mais en Chine, il y a un sens collectif. En France, on a perdu ce sens du collectif. Et c'est ce qu'il faut retrouver. Pas à l'image de ce qu'il fait en Chine, bien sûr, mais à l'image de quelque chose qui devrait être, selon notre histoire, beaucoup plus riche, encore beaucoup plus riche.
Et socialement, il faudrait un sursaut collectif, que ça soit aussi en France, mais aussi à l'international, du coup, pour vous.
Oui, bien sûr. Ça suppose qu'on s'entende. Ça suppose que De Gaulle appelait à la détente, l'entente et la coopération. Et ça veut dire qu'il y ait un système financier qui n'est pas basé sur l'exploitation de l'autre, sur des dettes illégitimes, mais qui est basé sur un développement mutuel, où on puisse avoir une architecture internationale de paix par le développement mutuel et par la sécurité mutuelle. Quelque part, c'est ce qu'ont exigé les Russes en Europe, qui n'ont pas eu, et ce qui a provoqué l'invasion de l'Ukraine. Donc il faut sortir de ce ami-ennemi et avoir quelque chose où on peut ensemble, en travaillant ensemble, arriver à un ordre de justice nouveau. Ça veut dire un système financier et monétaire qui le soutienne. Ça veut dire que ce n'est pas basé sur les spéculations financières à tout va. Et l'effondrement actuel du Bitcoin et des crypto-monnaies montre bien qu'elles reposaient sur rien, ni à la hausse ni à la baisse, c'est n'importe quoi. Mais quelque chose basé sur des biens physiques, des biens réels, le service public, toute notre tradition française du domaine public qui date de la monarchie, que la République a élevé à un niveau relativement plus élevé, et qui est toute cette tradition de l'histoire où ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui ont de l'argent ne le possèdent pas pour eux-mêmes, mais doivent le posséder pour le bien commun. Vous savez, il y a la fameuse citation de De Gaulle, on lui demandait pourquoi les pêcheurs de l'île Saint sont venus à vous au moment de juin 40, pourquoi il y a des gens du peuple qui sont venus, et pourquoi les gens qui avaient le plus de diplômes, les gens qui étaient le mieux installés, ne sont pas venus. Il a dit, parce que dans la période tragique, les possédants sont toujours possédés par ce qu'ils possèdent. Alors, qui n'est pas possédé par ce qu'ils possèdent? Les jeunes et les gens du peuple. Et c'est là qu'est l'avenir.
Et si un auditeur devait retenir une idée essentielle de votre livre, laquelle serait-ce?
Alors, je dirais l'essentiel, c'est que l'homme est naturellement disposé au bien. Il n'y a pas le bien et le mal. Le mal n'apparaît que lorsque le bien n'est pas fait. Et faire le bien, c'est pas facile. La liberté, c'est pas facile. Et que il faut peut-être réfléchir davantage à l'œuvre qu'on doit accomplir, à la manière dont on doit figurer vis-à-vis des autres et écouter les autres pour avancer. Or, en France, si on regarde le Parlement ou la scène politique, je dirais, il y a une extrême gauche, une gauche, une extrême droite, une droite, un extrême centre, un centre, tous des gens qui ne s'écoutent pas et qui se divisent entre eux. Je crois qu'on en a 15 ou 20 candidats à la présidentielle. C'est absolument ridicule.
Donc pour vous, il faudrait une union sacrée?
Non, pas l'union sacrée après 14. Hein.
D'accord.
Non, il faudrait, au contraire, des gens qui s'efforcent de chanter ensemble, au sens politique, bien sûr. C'est-à-dire, c'est une métaphore, c'est des gens qui s'efforcent de trouver dans l'autre des éléments de réflexion qui correspondent à ce qu'ils pensent être meilleur et qu'on s'entende. Je crois que pour cela, il faut voir les choses de haut. Martin Luther King disait, et De Gaulle disait la même chose d'ailleurs à Londres en 1941 dans le discours d'Oxford. Martin Luther King disait, je suis allé au sommet de la montagne et c'est là que j'ai vu ce que Dieu fait. Alors évidemment, il a dit cela la veille de son assassinat. Il faut être capable de risquer sa vie, son honneur, sa réputation et son patrimoine pour lorsqu'on rentre vraiment en politique dans une époque tragique comme la nôtre.
C'était la conclusion. Donc, merci Jacques Cheminade d'avoir partagé avec nous les réflexions développées dans votre livre « Répondre aux cris du peuple ». Cet échange nous aura permis de mieux comprendre votre analyse et les questions que vous soulevez autour du rôle des citoyens, des institutions et de la souveraineté. Nous rappelons que vous serez présent en séance de dédicace le 28 février à la librairie de l'Hérisson pour celles et ceux qui souhaitent poursuivre la discussion et aussi débattre avec vous. Je vous remercie encore, Jacques Cheminade, d'être parmi nous.
Dans un mot, merci à vous. Et je cherche à inspirer, pas du tout à, disons, régimenter, bien entendu.
Et merci à vous, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Et à très bientôt pour un nouveau
bientôt, donc. Merci.
Interview sur Studio 45. Merci beaucoup, Jacques Cheminade.